Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 23 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Fin de la visite du président chinois Xi Jinping au Sénégal. Nous aurons un compte-rendu de notre envoyé spécial, Jacques Aristide.
Au Mali, 11 djihadistes et un soldat tués hier lors d'une embuscade tendue à l'armée dans le centre du pays.
Le PDCI, un des deux grands partis de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, a menacé dimanche d'aller seul aux élections locales d'octobre.
Le gouvernement iranien est devenu un cauchemar pour son propre peuple, estime le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La branche sénégalaise d'Amnesty International se dit déçue que la question des droits humains ait été passée sous silence lors de la visite d'État de deux jours du président chinois Xi Jinping à Dakar. De la capitale sénégalaise, l'envoyé spécial de VOA Afrique, Jacques Aristide.
Pour Seydi Gassama, directeur d'Amnesty Sénégal, c'était une opportunité pour le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, de faire passer le message, notamment sur la crise des Rohingyas au Myanmar. Dans une déclaration à VOA Afrique, M. Gassama affirme que la Chine, qui a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, bloque toute tentative de résolution pour condamner les attaques. En revanche, ce sont les liens économiques sino-sénégalais qui ont polarisé la tension. Avant son départ hier, Xi Jinping a inauguré l'arène nationale de Pékin, une infrastructure dédiée notamment à la très populaire lutte traditionnelle au Sénégal, financée par la Chine à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Macky Sall s'est réjoui de la coopération entre les deux pays.
Depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards de francs CFA, soit plus de 14 milliards de yuan. Et sur ce montant total, 963 milliards de francs CFA ont été mobilisés entre 2012 et 2018, ce qui représente plus de 80% de ces financements.
Une série d'accords touchant les domaines de la justice, des infrastructures et de l'aviation civile ont été paraphés. Xi Jinping s'est prononcé pour une évolution forte du partenariat entre Dakar et Pékin. Après l'étape sénégalaise, la première de son périple africain, le président chinois mit le cap ce dimanche sur le Rwanda et se rendra ensuite à Johannesburg pour prendre part au sommet des BRIC, bloc qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Une escale à l'île Maurice est également prévu. Jacques Aristide, VOA Afrique, Dakar, Sénégal.
Au Mali, 11 djihadistes ont été tués hier dans le centre du pays lors d'une embuscade tendue par des islamistes à l'armée qui a perdu un soldat dans cet incident. Selon le ministère malien de la Défense, l'embuscade a eu lieu dans la forêt de Soumouni, cercle de Massina, région de Ségou. Par ailleurs, le Gatia et le MSA, deux groupes principalement Touareg qui soutiennent la force française Barkhane et l'armée malienne, ont signalé qu'une vingtaine de personnes ont été sommairement exécutés par des hommes armés lors d'une attaque le 20 juillet contre le village de Tininbaouen dans la commune de Menaka, dans le nord-est, près de la frontière nigérienne.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, a menacé dans une conférence de presse dimanche d'aller seul aux élections locales d'octobre et il a exclu des frondeurs. Alors que le président ivoirien Alassane Ouattara fait pression sur le PDCI pour qu'il rejoigne le nouveau parti unifié qu'il a lancé lundi, en vue de l'élection présidentielle de 2020, le PDCI dirigé par l'ex-président Henri Konan-Bédier a choisi de maintenir une position de fermeté, refusant cette fusion dont les termes ne lui conviennent pas.
Au Burkina Faso, le président de l'Union pour le Progrès et le Changement, Zéphirin Diabré, a été reconduit dimanche à la tête du principal parti d'opposition en vue de l'élection présidentielle de 2020. Chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, 58 ans, a fondé en 2010 l'UPC, parti avec lequel il avait terminé deuxième lors des élections législatives et présidentielles en 2015, derrière l'actuel président Roch Marc Christian Kabore.
Au Tchad, le gouvernement dénonce le rapport d'Amnesty International intitulé « Budget en chute, répression en hausse, le coût humain des mesures d'austérité » au Tchad, publié le 16 juillet dernier. N'Djamena constate avec regret que les contributions des autorités officielles n'ont pas été prises en compte. La ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement accuse l'ONG de ternir l'image du Tchad au niveau mondial.
Dans ce rapport, Amnesty International parle avec inconscience et légèreté de violation des droits de l'homme, de détérioration des droits à la santé et à l'éducation en passant par le manque des libertés fondamentales, notamment des libertés d'expression, syndicales, d'association, d'interdiction de manifestations à caractère pacifique et autres. Les méthodes de sondage contestables employées par Amnesty International pour parvenir à noircir le tableau. Le résultat ? En est que le rapport d'Amnesty International s'attarde seulement sur des informations et des données présentant une situation peu reluisante du Tchad, tout en occultant sciemment les efforts soutenus consentis par le gouvernement tchadien concernant le mieux-être de ses concitoyens.
La ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, propos recueillis par le correspondant de VOA Afrique N'Djamena, à N'Djamena, André Kodmajinga.
Une foule en colère a lynché trois soldats ougandais près de la frontière avec la RDC. La population locale reprochait aux victimes d'être des criminels. Les trois soldats ougandais ont été d'abord arrêtés pour interrogatoire. Ils étaient à environ 8 kilomètres de leur poste malgré la remise de leurs armes à feu aux habitants. La foule les a lynchés en affirmant qu'ils étaient venus pour les voler. Ces soldats étaient attachés à une unité de l'armée qui garde le poste frontière ougandais de Voura.
Un fonctionnaire local, Peter Debele, a déclaré que les enquêtes sont en cours pour établir les circonstances du meurtre. Il a aussi signalé l'arrestation de 8 personnes en connexion avec l'assassinat et la récupération de 3 armes à feu sur les lieux de l'attaque. Un nombre de criminels mettent des uniformes militaires. Pour les traquer, le gouvernement avait interdit aux civils de se vêtir de tenue de camouflage. La porte-parole de la police ougandaise pour la région, Josephine Angoucha, a exhorté la population à ne pas se faire justice. Elle a invité à signaler tout incident à la police à chaque fois qu'elle est confrontée à un problème.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 8 personnes ont été blessées lors d'une fusillade hier soir à Toronto, la métropole économique canadienne, et le tireur présumé est mort, ont annoncé les médias locaux citant la police. Les blessés, dont un enfant, ont été transportés à l'hôpital après la fusillade survenue dans un quartier de l'est de Toronto.
Un groupe de casques bleus et leur famille n'a pu être évacué de Syrie en raison de la situation sur le terrain, a indiqué dimanche une source gouvernementale. Plus de 400 casques bleus, blancs, secouristes volontaires dans les zones rebelles en Syrie et membres de leur famille ont été évacués dans la nuit de samedi à dimanche par Israël vers la Jordanie alors qu'ils semblaient pris au piège face à l'offensive du régime dans le sud syrien. Les premières informations avaient fait état de l'évacuation de quelques 800 personnes.
En Afghanistan, le général Abdul Rachid Dostum, chef de guerre redouté du Nord et premier vice-président de retour dimanche à Kaboul après un an d'exil en Turquie, a été accueilli par un attentat suicide dès l'aéroport, attentat revendiqué par le groupe État islamique. L'explosion due à un kamikaze a fait au moins 14 morts et 60 blessés selon un dernier bilan de la police de Kaboul. Le général Dostum est indemne, a dit son porte-parole.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que le gouvernement iranien est devenu un cauchemar pour son propre peuple et il a ajouté que les États-Unis n'ont pas peur de sanctionner au plus haut niveau le régime iranien tout en appelant tous les alliés de Washington à se joindre à l'Amérique pour affecter financièrement le gouvernement de Téhéran. Il a tenu ses propos hier lors d'une intervention à la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan, bondée d'Iraniens américains, soulignant que l'administration Trump ne gardera pas le silence face à ce qu'il a appelé les nombreux crimes et abus, dont la kleptocratie que commet le gouvernement iranien.
L'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016 continue de secouer Washington. Des documents top secret publiés samedi accablent un ex-conseiller du candidat Donald Trump, Eric Maniracchisa.
D'après ces documents, le FBI soupçonnait Carter Page d'avoir collaboré avec Moscou. Il était conseiller pour la politique étrangère de l'équipe Trump pendant sa campagne républicaine. Monsieur Page est directement nommé dans un document de la juridiction chargée de contrôler la surveillance d'espions, la Foreign Intelligence Surveillance Court, datée d'octobre 2016. Dans une salve de tweets ce dimanche matin, Donald Trump s'est réjoui de la publication de ces documents. Il a estimé qu'il confirmait avec peu de doute que le ministère de la Justice et le FBI avaient trompé la Cour pour obtenir un mandat judiciaire pour surveiller Carter Page. Ces révélations interviennent un peu plus d'une semaine après l'inculpation de 12 agents du renseignement russe pour avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate. Elle clôture aussi une semaine politique agitée à Washington. Le président américain a été sous le feu des critiques pour ses propos jugés trop conciliants à l'égard de son homologue russe Vladimir Poutine. Bien que le climat reste électrique à la suite du sommet à Helsinki, Donald Trump a invité le maître du Kremlin à le rencontrer à nouveau à l'automne à la Maison-Blanche.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
La Tunisie est officiellement le 20e membre à part entière du COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe. La Tunisie aura droit d'accès à la zone de libre-échange triangulaire qui regroupera le COMESA, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe. Le COMESA constitue un vaste marché de plus de 520 millions d'habitants et représente un produit intérieur brut d'environ 755 millions de dollars. L'ABAD a accordé un prêt de 20 millions d'euros en faveur de la République du Cap-Vert pour le financement de la première phase de son programme de développement économique. L'objectif vise à inciter le secteur privé et les entités locales à contribuer davantage à la croissance et à l'emploi et à soutenir le développement du secteur privé dans le cadre du plan de développement national. Le portefeuille de la BAD au Cap-Vert comprenait 11 opérations pour 114 millions de dollars à fin avril 2018.
À présent, les sports avec Élisée Oumpati. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le dernier tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Le Burundi sort le tenant du titre.
La Zambie ne défendra pas sa couronne. Victorieux 1-0 à domicile à l'aller, les Chipolopolo juniors ont été surpris hier par le Burundi, score 3-0. Le Cameroun aussi ne disputera pas cette CAN des moins de 20 ans prévue l'année prochaine au Niger. Tenu en échec à l'aller à Yaoundé, les Lions Indomptables juniors ont été balayés 3-0 hier à Bamako par le Mali.
La suite des résultats avec notamment la qualification du Nigeria.
En ballotage favorable après son nul concédé au match aller, le Nigeria a écrasé 5-0 à Lagos de la Mauritanie. Qualification du Sénégal. En bonne position après le match aller, les Lionceaux ont validé leur billet en étriant le Congo 4-1 au retour à Dakar. Ça passe aussi pour le Burkina Faso. Déjà vainqueur 3-1 à l'aller, les étalons juniors ont de nouveau pris le dessus sur le Gabon en s'imposant 1-0 au retour à Libreville. Et puis après son match nul à domicile à l'aller, l'Afrique du Sud a bien réagi en s'imposant 2-0 au match retour au Malawi.
L'éliminatoire de la CAN des moins de 17 ans Tanzanie 2019 a également démarré.
Oui, et pour la première fois, ces éliminatoires auront lieu par zone géographique. C'est la zone COSAFA qui a lancé les hostilités du côté de l'île Maurice. 12 équipes reparties dans 3 groupes de 3 vont s'affronter jusqu'au 29 juillet. Hier, dans le groupe B, l'Afrique du Sud vainqueur 4-1 du Mozambique et la Zambie victorieuse 1-0 de Lesotho se rapproche du dernier carré. Aujourd'hui, on aura également 2 matchs dans le groupe C, Malawi-Zimbabwe et Angola-Swaziland. A noter que les éliminatoires dans les autres zones vont démarrer en août.
Élisée, le Ballon d'Or africain 2018 sera remis à Dakar.
Oui, Idrissa, et comme chaque début d'année, la Confédération africaine de football organisera les CAF Awards, une cérémonie qui honore les meilleurs acteurs du football africain au cours de l'année écoulée, dont le joueur de l'année. Après Accra en 2018, l'édition 2019 se tiendra à Dakar au Sénégal. C'est le président de la Fédération sénégalaise de football qui a dévoilé l'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, 28 candidatures ont été enregistrées pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Outre le président sortant Paul Biya, quelques figures de proue de l'opposition, 6 candidats indépendants et 2 femmes, ont déposé leur dossier auprès d'Election Cameroun, l'organe chargé d'organiser les scrutins. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap, a recueilli les premières déclarations de certains candidats.
Investi par le parti Univers, Cabral Libi, 38 ans, se présente comme le candidat du peuple qu'il a soutenu pour payer sa caution de candidature à l'élection présidentielle.
Je suis heureux d'avoir été choisi par ces Camerounais qui, à plus de 20 000, ont cotisé leurs 1 000 francs, leurs 500, leurs 5 000, 10 000. J'ai jamais méprisé le peuple parce que je suis du peuple et je sais quelle est la puissance, qui est la nôtre si nous avons la volonté.
Dans un contexte de crise anglophone, le candidat anglophone Akeremouna appelle les Camerounais à opter pour le changement.
Je suis fermement convaincu que le changement que nous recherchons se fera au moyen du bulletin de vote et non de la balle et sauver notre pays. Notre pays souffre énormément. Pourtant, on nous dit que nous sommes un indivisible.
Troisième à l'issue de l'élection présidentielle de 2011, Garga Haman Hadji revient à la course cette année encore pour, dit-il, redresser le Cameroun.
Parce qu'il y a le pillage des biens publics, des détournements des deniers publics énormes, une indiscipline généralisée, sans tenir compte de quelque hiérarchie que ce soit. Ce pays a besoin d'être remis sur une bonne voie et je me sens capable de le faire.
Dans la course aussi, 2 femmes, parmi lesquelles la présidente de l'UPC. Sa formation est cependant divisée sur 7 candidatures. Habiba Issa, candidate de l'UPC.
Nous sommes dans un parti qui a une démocratie inouïe. Je ne dirai pas pourquoi, de l'autre côté, ils supportent la candidature du président de la République. Je vais aller aux élections. C'est le comité directeur qui décide de la ligne à suivre du parti. Et je suis déterminée pour ma candidature parce que mon parti en a besoin.
Pour la société civile camerounaise, 27 candidatures déposées sont issues de l'opposition, ce qui plombe l'idée d'un candidat unique, Hilaire Kamga, coordonnateur de l'offre Orange.
Je ne crois pas avoir, avec les orangistes, choisi la meilleure option. Peut-être qu'on s'est trompé, mais on assume le fait qu'on se soit trompé de dire à Kamto et à Kéré de pouvoir convoquer ces assises. Maintenant, on va nous dire peut-être que le lendemain, avant octobre, il y aura des coalitions. C'est ce sur quoi je suis péremptoire. Il n'y aura rien du tout dans le sens des intérêts.
C'est le 8 août prochain que Election Cameroun rendra public la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Niger, une trentaine de leaders religieux se sont réunis à Niamey, la capitale, pour échanger sur leur rôle dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La rencontre a été initiée par le GIABA, une institution spécialisée de la CDAO pour la lutte contre le blanchiment d'argent. Compte rendu d'Abdul Razak Idrissa, correspondant de VOA Afrique.
Une étude récente menée par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a démontré que beaucoup d'ONG et associations sont abusées par des groupes criminels et parfois terroristes qui les utilisent en les détournant de leur mission initiale ou encore pour détourner des fonds. C'est de leur vulnérabilité face à ces groupes que cette institution spécialisée de la CEDEAO pour la lutte contre le blanchiment d'argent veut amener les structures à prendre conscience. Mariam Ibrahim Touré, responsable de la recherche au GIABA.
On n'est pas en train d'accuser une association religieuse quelconque. Nous disons juste que dans notre dispositif, par rapport à la réalité de notre région, la réalité du Niger, mais la réalité de notre région ouest-africaine de façon générale, il y a des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des personnes mal intentionnées. Donc nous essayons de leur expliquer ça, de leur montrer ce que eux ils peuvent faire ou bien de leur demander comment ils peuvent contribuer à cette lutte, comment ils peuvent nous aider pour qu'on puisse avoir des résultats. résultats pertinents dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Lors de la rencontre, la plupart des responsables d'associations religieuses qui ont pris part ont insisté sur la position de l'islam par rapport au blanchiment de l'argent.
Le blanchiment d'argent, c'est interdit dans l'islam. Parce que cet argent-là, même si tu es à la Mecque, ou bien tu contrôles des mosquées, ou bien tu as fait des choses de bien, tu n'auras aucune récompense. Même quand tu manges l'argent, le blanchissement de l'argent-là, vraiment, même quand tu pries, tu ne peux pas avoir ta récompense.
Au sortir des deux jours d'échange, les leaders religieux disent avoir tiré le meilleur sur leur rôle dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Docteur Sambo Amadou.
J'avoue que nous avons été vraiment très édifiés. Nous avons compris les oulémas que nous sommes. Nous avons tiré énormément de profit. L'islam est clair. Tu ne peux pas avoir un musulman deux fois. Quelqu'un ne peut pas venir nous amadouer, nous donner de l'argent pour poser problème ou pour aller tuer ou pour aller saboter. Je crois qu'il n'en est pas question. Et ceux qui se hasarderont à le faire, nous l'avons dit là-bas, tant pis pour eux.
Il n'y a aucune structure islamique hein, qui a des financements douteux.
Aucune. D'ailleurs, les pauvres, ils ne reçoivent rien. Ils ne savent même pas par quelle issue passer pour avoir des sources de financement. Ils ne peuvent pas te monter un dossier.
Abdullah Razak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Bénin, interdiction de la vente de l'essence frelatée. Selon un article du nouveau code pénal en vigueur depuis le 5 juin dernier, et je cite, « Le commerce des carburants ainsi que celui des lubrifiants aux abords des rues dans les agglomérations et tout endroit autre que dans les dépôts et installations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers ou des distributeurs agréés sont rigoureusement prohibis. » Fin de citation. Les réactions avec Ginette Fleur Adandé, correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
Le commerce de l'essence frelatée depuis plus de 30 ans aura résisté à toute tentative de répression et de suppression. L'argument souvent brandi pour justifier la chose reste le nombre de personnes qui y trouvent leur salut. Mais avec le code pénal mis à la disposition de l'arsenal juridique béninois par les députés, le sort de ce commerce semble bien scellé. Certains accueillent la nouvelle avec soulagement compte tenu des nombreux dégâts que cause l'essence frelatée. Kenneth Yanvi est chef d'agence dans une banque de la place. Pour lui, cette loi est une aubaine.
La suppression de l'essence au bord de la voie. Tout le monde veut ça. Lorsque vous voyez des gens en pleine circulation mettre des bidons derrière vous, vous avez peur. C'est un risque énorme pour la société.
Comme lui, beaucoup de Béninois apprécient la décision, même s'ils sont conscients que le prix et la disponibilité de l'essence au bord de la voie sont préférables à la cherté et aux longues files d'attente des stations. Hervé et Nestor sont tous deux conducteurs de taxi-moto à Cotonou. Pour eux, cette décision est une mauvaise nouvelle. Leur recette journalière ne pourrait leur permettre de s'offrir le luxe des stations-service.
Quand je gagne ces 40 000 francs et que j'ai un engin, je vais laisser l'essence de 325, 250 pour aller acheter l'essence de 500 francs.
Souvent, quand on va à la station, c'est la pénurie. On ne trouve pas de l'essence. C'est difficile à trouver et on se met à la queue.
Des milliers de jeunes femmes et hommes vivent de la vente de l'essence de contrebande. Ces deux Béninois qui préfèrent garder l'anonymat ont donné la chance à des dizaines de jeunes engagés autrefois dans le banditisme de grand chemin. Ils sont devenus vendeurs d'essence depuis quelques années. Mais avec cette interdiction, le risque qu'ils retrouvent leurs vieilles habitudes est bien grand.
Si l'État bannit l'essence frelatée, de quoi vont vivre ces gens-là?
Voilà qu'il y a des jeunes diplômés comme vous qui adaptent ça à la menace comme un métier. Si on supprime ça, tout brusque maintenant, ça va mener encore d'autres dangers.
Henri Assogba est le président de l'Association des vendeurs d'essence du Bénin. Il est tout comme beaucoup de sa corporation surpris par le vote de cette loi. Pour lui, Patrice Talon n'a pas respecté sa part du contrat. Il aurait promis lors des campagnes électorales, œuvrer pour la reconversion des vendeurs et non interdit sans aucune mesure d'accompagnement social.
En 2016, si on a choisi le président Patrick Talon, c'est parce qu'on sait que c'est le seul qui peut arriver au pouvoir et nous aider à aller à la reconversion. Ce qui est sûr, on ne peut pas aller voler, on ne peut pas aller tuer. Donc, on va voir ce qui va se passer après.
Justement, parlant de mesures sociales, même les populations qui s'approvisionnent au bord de la voie pensent qu'il aurait fallu construire assez de stations-service, diminuer le prix de l'essence à la pompe avant de penser à une telle loi.
Et où est la mesure
mesures sociales qu'ils ont mises en place pour nous permettre d'acheter l'essence à moindre coût.
S'ils veulent lutter contre ça, il faudrait qu'ils subventionnent.
Le gouvernement, en tout cas, se veut rassurant quant aux stratégies à adopter dans l'application de cette loi pour que vouloir régler un souci n'en crée pas d'autres sans précédent. Modeste Toboula est le préfet du département du littoral.
Si aujourd'hui nous voulons appliquer aveuglément cette loi, c'est que nous allons créer un problème social. Ils ne sont pas là pour ça. Nous prenons des mesures pour le bien-être d'abord. Et le chef de l'État est dans cette logique.
C'est une bonne chose de vouloir sortir de l'engrenage de la vente de l'essence frelatée. Mais que prévoit l'État réellement pour cette grande partie de la population béninoise qui trouve une source de subsistance dans cette contrebande organisée au plus haut niveau? De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Pour terminer, rendons-nous au Togo pour découvrir les chaussures faites à base de tissus tissés, de cuir et de pneus recyclés. Les chaussures de marque Mablé Agbodan, handmade in Togo, fabriquées sur mesure, font leur première expérience sur le marché. Les œuvres qui sortent des ateliers du Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo misent sur la finesse et les matières utilisées pour mieux s'exporter. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le Togo produit des chaussures qu'il exporte. Ces chaussures portant le label Femme sont produites dans les ateliers du Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo, un centre créé par Mablé Agbodan, une Togolaise architecte d'intérieur et designer qui, de retour de Londres, a voulu donner l'opportunité aux artisans togolais de mieux se vendre.
Quand on va au centre d'artisanat au grand marché, on voit de très belles chaussures, on les achète, mais une fois qu'on commence à les mettre, quelques jours après, ça se détériore. Je pense que l'artisan africain, spécialement togolais, a beaucoup de talent, mais nous manquons beaucoup de précision et de rigueur dans nos réalisations, et c'est ce que je veux apporter à l'artisanat de notre patrie.
Cette unité de chaussures qui a commencé sa production en avril 2018 fabrique une trentaine de paires par mois. Pour un début, la production se fait sur commande. Et pour finir, une paire de chaussures faites avec du tissé, du cuir pour la semelle intérieure et du pneu recyclé pour la semelle externe, il faut 3 jours à un artisan cordonnier. Selon Idrissa Soulé, artisan dans l'unité de maroquinerie, ce sont les matières utilisées qui font la spécificité des chaussures qui sortent de leur centre.
On utilise plus les tissus tissés de Togo, les cuirs aussi locaux et aussi de différents cuirs que les gens ne pensent pas en avoir. On a même des cuirs de poissons. À l'époque, je travaille dans la quantité et maintenant on part sur la qualité, sur des modèles qui n'existent pas, on crée. Et la matière première aussi, on prend ce que les gens n'utilisent pas, c'est avec ça on fait tout cela.
L'unité de maroquinerie ne produit pas que des chaussures. On y fabrique également des sacs, des pochettes, des ceintures et même des trolleys faits avec du bois, du fer, du sac de jute et du pneu. Pour séduire ses clients, Mablé mise sur la matière première et sur la finesse du travail.
Nous avons le grand défi d'utiliser que les produits locaux qui est fait en Afrique ou au Togo. En tout cas, les gens sont plutôt après la quantité qu'après la qualité. Je préfère une paire de chaussures que d'en faire 10, parce que la paire que je ferai dans le temps que je ferai 10, et je pense que ça prendra plus de temps dans le temps à l'utiliser. C'est le temps qu'on passe sur une œuvre qui fait la qualité de l'œuvre.
Situé à Goleke, dans la banlieue est de Lomé, le Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo dispose de différents ateliers, notamment de menuiserie, de tapisserie, de décoration d'intérieur et de couture. Kay Lawson, Lomé, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Georges Léonard Sagnot pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.